Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Dans quelques minutes, nous serons avec Laurent Gérard et toute son équipe. Mais tout de suite, notre revue de presse, 8h40. Et ce matin, Amandine, eh bien, on parle de gros sous.
Oui, avec d'abord cette mauvaise nouvelle pour les contribuables parisiens et ceux qui vivent dans les villes limitrophes. Vos impôts risquent bien d'augmenter, et pas qu'un peu, hein. La faute à Autolib. C'est ce que révèlent ce matin nos confrères du Monde. Le service d'autopartage n'est en effet pas rentable. Trop peu de locations pour couvrir les charges. Leur nombre même décroît depuis quelques années, moins 16% par exemple en 2017. Résultat, les comptes de l'entreprise sont dans le rouge. Selon Le Monde, le déficit cumulé atteindrait les 293 millions d'euros d'ici 2023. C'est colossal. Et le patron, Vincent Bolloré, demande désormais à la mairie de Paris et aux 97 communes qui bénéficient du service de mettre la main à la poche. Il faut dire, explique le journal, que le contrat initialement signé se révèle redoutable pour les collectivités. Il impose en effet à l'industriel de prendre en charge les pertes, mais qu'à hauteur de 60 millions d'euros. Au-delà, ce sont les communes elles-mêmes qui sont tenues de lui régler le reste de l'ardoise. Vous avez fait la soustraction. Ah oui. Voilà, en tout cas, sans doute une nouvelle grosse épine dans le pied d'Anne Hidalgo, qui à 2 ans des municipales n'avait pas vraiment besoin de ça, d'argent. Il en est aussi question ce matin dans l'Obs, l'argent caché de l'islam de France, titre cette semaine l'hebdomadaire. Argent caché, car contrairement aux idées reçues, écrit le journal, l'islam de France disposerait de réelles ressources, les dons d'abord des musulmans pratiquants, 180 euros en moyenne chaque année et par personne, soit au total 300 à 400 millions d'euros pour les mosquées françaises. Il y a aussi, explique l'Obs, ces valises de billets qui arrivent de l'étranger, difficile de savoir combien, mais à en croire les témoignages recueillis, cela existe. Le fondateur et président des Jeunes Musulmans de France raconte ainsi comment, dans les années 2000, il faisait le voyage en Arabie Saoudite et rapportait de grosses liasses de billets dans son sac. Un ancien conseiller Nicolas Sarkozy à l'Élysée explique lui avoir vu passer, du temps où il travaillait à la Grande Mosquée de Paris, de très grosses sommes de donateurs qataris mais aussi libanais. L'un d'eux, ajoute-t-il, m'a ainsi remis en 2006 un chèque de 150 000 dollars pour la mosquée. Je l'ai même pris en photo. Intenable, estime bon nombre de responsables musulmans, hein, qui réclament aussi plus de réglementation autour du halal, un marché à plus de 5 milliards d'euros qui est visiblement gangréné par l'affairisme et la fraude. Le Point, lui, s'interroge ce matin, alors que la crise en Italie est en train de plomber les marchés financiers, alors que les eurosceptiques progressent partout. Le journal pose cette question, un brin polémique, provocatrice en tout cas. Les charlatans vont-ils nous ruiner? La quadruple crise institutionnelle, politique, économique et migratoire risque bien, écrit Luc de Barrochet, de déstabiliser l'Union européenne en profondeur. Alors je vous conseille notamment l'interview passionnante du philosophe allemand Peter Sloterdijk. Il y livre sa vision de la crise que traverse l'Europe, crise d'adolescence en quelque sorte à l'entendre. On assiste actuellement au retour du fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais version 21e siècle, c'est-à-dire pervertie, adolescente et capricieuse, comme si le selfie, dit-il, avait contaminé la politique. De nombreux Européens, poursuit-il, vivent aujourd'hui sous un casque, dans une illusion de pouvoir sur leur destin, illusion qui s'accommodera très mal avec le réel quand ce dernier éclatera à leur face sous la forme, par exemple, d'une grande faillite en Italie. Là, conclut-il, il ne sera plus temps de faire des selfies. Enfin, lui savait vendre n'importe quoi, enfin, presque à n'importe qui. Paris Match rend ce matin un très très bel hommage à Pierre Bellemare. Ses obsèques, on le rappelle, ont lieu ce matin à 10h30. Plein de photos et ce papier signé Yann Moix. Il était, écrit-il, la voix de la France, un De Gaulle subsidiaire, complémentaire et annexe. Bellemare incarnait lui aussi la 5e République, celle des scansions rassurantes et des histoires auprès du feu. Mi-Guy Lux, mi-Jacques Chancel, ce cancre, poursuit-il, avait cultivé la déconnade tirée à quatre épingles. C'est très joliment dit. La suite l'est tout autant. Bellemare, écrit Yann Moix, a révolutionné l'art de compter. Il réinvente le silence, stoppant le récit sans cri gare, puis accélère soudain le débit. Il fait danser les mots. Le crime qu'il expose ou l'histoire surnaturelle se déroule en direct, dans notre voiture, dans notre appartement. On vérifie même sous le lit que l'assassin dont il est question ne s'y trouve pas. L'entendre était une drogue. Les podcasts n'existant pas à l'époque, il fallait patienter. Avec Bellemare, conclut Yann Moix, ce n'est pas seulement Pierre Bellemare qui meurt, mais une France, celle du 20e siècle, celle dont l'histoire aura été contée par ce drôle de bonhomme à la tête de Dirlo qui fut qu'on le veuille ou non, dans un autre temps, une autre époque, le meilleur ami des Français. C'est un très très bel hommage, je vous le conseille, à lire donc dans Paris Match.
Et les obsèques de Pierre Belbaron-Lieu, je vous le rappelle, à l'église Saint-Roch ce matin à 10h30 à Paris. C'est la très belle église des artistes. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.